je suis David Melmans, éditeur aux éditions Forge de Vulcain, et aujourd'hui, je vais m'entretenir avec l'écrivain Alexis David Marie. Bonjour Alexis.
Bonjour.
Alors j'ai dit écrivain parce que, en fait, tu as publié aux éditions Forge de Vulcain deux romans, qui sont Prométhée Vagabond et Martyr Français, mais tu nous reviens avec un nouveau texte, Retour à la Jungle, qui est un récit. Voilà. Alors, Alexis, on va parler... aujourd'hui, ce n'est pas un exercice de promotion, c'est un exercice où on parle de la conversation collective. Ces jours-ci, il y a un sujet qui m'a intéressé, c'est que on parle beaucoup en France de harcèlement, dans le monde scolaire notamment. Et toi, tu me racontais que... Donc, tu es enseignant dans le secondaire, ça je le savais, mais en plus tu es référent harcèlement dans ton établissement.
Oui, voilà, parce qu'en fait, là, j'enseigne au collège, un collège de banlieue
dans
parisienne.
T'enseignes l'histoire.
Voilà, j'enseigne l'histoire géo dans un collège tranquille de banlieue parisienne. Et en fait, dans le cadre de sa politique contre le harcèlement scolaire, le ministère de l'Éducation nationale demande à tous les établissements de nommer de choisir un référent harcèlement, et donc quelqu'un qui est particulièrement indiqué pour traiter ce type d'affaires dans l'établissement.
Attends, mais nommé, c'est-à-dire, toi tu t'es porté volontaire ou...
Non, c'est mes collègues et mon chef d'établissement qui ont pensé à moi.
Et pourquoi ils ont pensé à toi?
C'était aussi, alors pas du côté de mon chef d'établissement parce qu'il connaît pas mon passé, mais de la part de certains collègues, c'était aussi en lien avec mon passé, parce qu'il se trouve que j'étais un collégien très difficile, avec beaucoup de sanctions, beaucoup de punitions, et donc beaucoup de collègues trouvaient que ça pourrait être intéressant que ça soit moi du coup qui gère
Attends,
un peu ce type d'affaires dans mon établissement.
Mais tes collègues, comment ils connaissaient cette partie de ton histoire?
Parce que je suis dans ce collège depuis longtemps, hein, depuis 15 ans, avec beaucoup de collègues qui bougent pas forcément trop, qui ont fini par très très bien se connaître avec certains d'entre eux. Mm-hmm. Former une petite famille, ça serait exagéré, mais en tout cas très très bien se connaître.
Ce qu'on appelle la salle des profs. Ce lieu magique pour les gens qui n'ont jamais travaillé dans la salle des profs.
Voilà,
la salle des profs.
Et on finit par très bien se connaître, tout simplement. Ouais.
Voilà. Mais en fait, tu n'enseignes pas dans un établissement où tu as été scolarisé?
Non, pas du tout.
D'accord, ok. Et d'une certaine façon, alors, il n'y a pas longtemps, j'ai vu un film de Marco Bellocchio qui s'appelle Le Traître, qui est sur les repentis de la mafia. Est-ce que toi, tu es un repenti, en fait? Parce que, en fait, habituellement, quand les gens disent « Ah, c'est un sujet que je connais bien, le harcèlement », c'est plutôt en tant qu'ancienne victime. Toi, tu étais victime
Alors, j'ai été un petit peu victime de harcèlement. J'ai jamais été harceleur à proprement parler, mais j'ai quand même déjà été puni pour des histoires un peu de violence scolaire. Mmh. Notamment, à un moment, j'ai eu une semaine d'exclusion pour une sinistre lettre anonyme de menace de mort que j'avais écrit pour un ami qui m'avait demandé, je l'avais recopié pour lui rendre service, donc je le raconte dans le livre, ce qui me conduit à faire ça. Mais en tout cas, oui, un peu repenti de la mafia, au sens où, effectivement, je suis passé un peu d'un bord à l'autre, c'est-à-dire cancre et en difficulté scolaire. Alors je ne sais même pas si c'était en rébellion, je ne sais même pas si c'était vraiment une forme de rébellion, mais en tout cas en perdition scolaire au collège, autant du point de vue des résultats que du point de vue du comportement, ce qui a culminé jusqu'au conseil de discipline. Bon, et après, bon, bah, y a eu un ressaisissement plutôt au lycée, et ce qui m'a fait passer de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi que dans le livre, quand je parle de cette adolescence un peu compliquée au collège, eh bien j'utilise la deuxième personne du singulier, le « tu ». Tu faisais ceci, tu faisais cela, parce que au-delà de ma simple personne, dans ce « tu », je m'adresse aussi à tous ces élèves en échec scolaire et en difficulté avec l'institution, qui cumulent les punitions, etc. Et donc c'est aussi à eux que je m'adresse en disant tu, quoi.
Je précise juste quelque chose pour les auditeuristes, parce que il y en a qui sont plus jeunes que nous. C'est que quand on parle de harcèlement dans les années 90, en fait, est-ce qu'on dit déjà harcèlement? On parle de
Dans les années 90, je ne me souviens pas avoir entendu
parler de ça. Non, c'est ça. Mais en plus, c'est avant les réseaux sociaux. Parce que je
voilà,
que
toi, c'est tout à fait avant les réseaux sociaux.
C'est un autre, voilà, c'est d'autres types de mécanismes. Alors, c'est toujours des mécanismes de violence.
Voilà.
Ça passe ce côté particulièrement massif et étouffant.
Voilà.
Et surtout dépersonnalisant, parce que j'ai l'impression que... déresponsabilisant, je pense que j'ai l'impression que dans le cyberharcèlement, les personnes qui vont juste envoyer une pique en ligne ne se rendent pas compte en fait que ce n'est pas rien et ça a un impact sur la santé mentale des gens qui visent.
Oui, tout à fait.
Toi, dans le cadre de ta mission, vous avez eu des affaires à gérer ?
Oui, on peut avoir des affaires comme ça, oui, des élèves qui divulguent des photos de camarades qui se sont dénudés pour eux, des choses comme ça. Donc oui, on a traité, là, hier encore, il y avait un conseil de discipline qui portait là-dessus. Donc oui, sur le thème du cyberharcèlement, effectivement.
Mais c'est vrai qu'en plus, alors, ça pose, je faisais la référence avec le... enfin la comparaison avec les repentis de la mafia, mais c'est un peu différent parce que alors s'il y a quelque chose de commun, c'est qu'on comprend que la justice italienne avait besoin des repentis, ne serait-ce que pour comprendre ce monde. Et en fait, d'une certaine façon, ce que j'apprécie dans ton texte, ta démarche de manière générale, c'est que bon, on est entre nous, donc je pourrais raconter quelque chose. Il n'y a pas très très longtemps, il y a eu une tribune d'un écrivain qui tombait à bras raccourcis sur les gamins, sur le fait que les gamins maintenant sont débiles, sont fermés, sont pas curieux et tout ça. Et j'étais très choqué en fait. J'étais choqué à la fois que quelqu'un qui est enseignant dise ça parce que je pense qu'il passait à côté de ce qu'était l'enseignement. Mais autre chose, j'étais choqué que tant de gens trouvent ça génial qu'un prof raconte des choses comme ça. Je pense aussi que sans... je sais pas, ce que j'apprécie dans ce que tu racontes, c'est aussi la sympathie qu'il y a, l'affection, la bienveillance envers les gamins, y compris envers les gamins qui font des fautes, et en gardant à l'esprit que c'est pas encore des adultes, c'est pas des majeurs, voilà. Donc c'est pas, est-ce que toi, ton passé t'a aidé t'aide à mieux comprendre au quotidien ce que...
Oui, tout à fait. Bah, déjà, sur un point tout simple, c'est qu'en fait, très souvent, les élèves qui sont agités en classe, qui posent des problèmes de discipline à mes collègues, sont décrits par mes collègues, et je les comprends, hein, et puis c'est pas forcément faux d'ailleurs, comme des enfants mal élevés, par exemple. Ah, il est mal élevé, il est ceci, cela. Bon, mais en me souvenant de celui que j'étais, et je serais incapable de dire si j'étais bien ou mal élevé, je ne sais même pas, je dirais que la question ne se pose pas du tout en ces termes-là, en fait. C'est plutôt la question de l'essoufflement qui me vient à l'esprit. C'est-à-dire que souvent, les agités, les élèves difficiles sont des élèves essoufflés, en fait. Pour qui la vie normale, être normal, se tenir en classe comme ça, écouter le professeur, rester assis, faire ce qu'on lui demande, apporter ses affaires, s'organiser, et parfois un effort qui est, pour des raisons psychologiques, trop difficile pour eux. Alors ça peut être lié à des problèmes qu'ils peuvent avoir ailleurs ou quoi que ce soit et qui leur mangent un peu l'esprit d'une certaine façon, ce qui fait qu'ils n'arrivent plus à s'organiser et tout ça. Ça peut être plein de choses, mais en tout cas c'est plus... les agités m'apparaissent plus comme des essoufflés que comme des enfants mal élevés. Et je me rappelle une fois, lors d'une inspection que j'avais eue en tant que prof, ma chef d'établissement avait reçu l'inspectrice pour lui parler un peu du prof que j'étais, et elle avait dit quelque chose que j'avais reçu comme un très très beau compliment, et un des plus beaux compliments qu'on m'ait fait en tant que prof, c'était de dire que les élèves difficiles du collège réclamaient de m'avoir comme professeur. Et j'avais été très touché par ça, qu'elle ait remarqué que les élèves les plus difficiles du collège me réclamaient comme professeur. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'avait... voilà. Et c'est vrai que c'est sans doute lié, en effet, au fait d'avoir été moi-même un peu parmi eux, à baigner, parce que c'est souvent le cas quand même des perturbateurs, même dans l'affaire que j'ai vue hier dans mon collège, dans le conseil de discipline, je baignais comme beaucoup d'élèves difficiles dans un climat aussi de masculinité toxique, de ce qu'on appelle la masculinité toxique, quoi. C'était très très présent. Moi, j'ai grandi donc dans les années 90, les questions féministes, etc., n'étaient pas encore au même point. Il y avait eu énormément d'avancées, bien sûr. Ça avait commencé avec les années 60, les années 70. Mais dans les années 90, on n'était pas du tout au même point qu'aujourd'hui. Et donc, cette masculinité toxique, qui était un peu la culture dans laquelle je baignais à l'époque, et que j'essaye de restituer dans le livre, jusqu'à peut-être faire un petit peu mal parfois au lecteur, hein, vraiment le plonger dans le bain de la masculinité toxique, pour, voilà, c'est une façon de réfléchir à tout ça.
Mais, alors j'ai plein de questions. Toi, en tant que référent, est-ce que ça t'amène à sortir un peu de ton établissement, à faire des réunions hors établissement, à avoir accès à des chiffres, ou c'est vraiment ton expérience locale qui est le truc central?
C'est vraiment l'action locale qui est centrale, mais on a des petites formations pour...
Parce que là, juste un point de détail, c'est qu'en fait, est-ce que toi, les élèves perturbateurs, c'est vraiment comme dans le... la vie, enfin comment dire, comme dans le crime en fait, c'est massivement masculin.
Non, mais c'est majoritairement, mais pas c'est pas une écrasante majorité.
D'accord.
C'est majoritairement masculin, mais à petite majorité.
D'accord.
Mais c'est quasiment tout le temps comme ça, dans quasiment tous les établissements scolaires.
D'accord. Donc il y a bien, et encore aujourd'hui, toi est-ce que tu perçois par exemple chez les garçons qu'ont ce type de comportement, quelque chose qui tient à la masculinité toxique encore aujourd'hui?
Ça peut arriver, pas toujours, mais dans certains cas, ça peut arriver.
D'accord.
Dans certains cas, ça peut arriver.
Pour revenir en arrière sur ce que je disais sur parfois les prises de parole publiques d'enseignants que je trouve injustes avec leurs élèves, et surtout, il y a quelque chose de violent aussi qu'ils ne perçoivent pas, c'est qu'eux ont accès à la parole, leurs élèves ne pourront pas leur répondre. N'ont pas accès à leur parole. Bon, parfois, leurs élèves verront jamais leur tribune, donc on s'en fiche. Mais parfois, j'ai l'impression qu'en fait, certains bons élèves qui deviennent enseignants reconstruisent mentalement leur mission comme si les élèves qu'ils ont face à eux étaient les mêmes qu'eux-mêmes. Est-ce que pour enseigner, on a toujours besoin de considérer que les élèves sont les mêmes que nous-mêmes? Voilà. Et toi, en plus, t'es double. C'est-à-dire que tu as été le cancre, puis après, tu as été l'excellent élève.
Oui, au lycée.
Parce que ça fait aussi
au lycée, voilà, lycée, exactement. Cancre au collège et très, très bon élève au lycée. Mais oui, c'est vrai que c'est ce qui n'est pas évident pour ça, pour la plupart des enseignants, c'est que je vois et que j'ai côtoyé dans ma carrière, ça fait un peu plus de 15 ans que j'enseigne maintenant, c'est que la plupart des enseignants, en effet, ont toujours été des très bons élèves. Ce sont, à très grande majorité, des gens, je parle des enseignants que j'ai côtoyés, des gens très bien, très responsables, et en fait des gens qui n'ont pas eu, le plus souvent, d'accidents majeurs dans leur socialisation adolescente. Ce sont des gens pour qui la socialisation à l'adolescence s'est faite plutôt normalement. Donc c'est vrai qu'ils peuvent peut-être parfois avoir du mal à comprendre pourquoi des choses qui pour eux ont été simples peuvent être très difficiles à acquérir pour d'autres personnes, d'un point de vue comportemental, tout simplement. Donc il peut y avoir un petit peu cette difficulté. Bon, si je faisais une analogie avec le vélo, bon, ben moi imaginons quelqu'un qui dirait, ben voilà, je me suis assis sur la selle du vélo, j'ai pédalé, et puis ça y est, j'ai fait du vélo. Pourquoi tu n'arrives pas à faire du vélo? Et la difficulté à comprendre que quelqu'un ne puisse pas faire quelque chose qui a été très très simple pour la personne qui essaie de lui enseigner ça. Donc ça joue beaucoup.
Ça me fait penser à un autre truc. Alors, c'est une question plus générale sur l'éducation, mais que je pose souvent aux enseignants avec lesquels j'ai l'occasion de discuter, parce que la population enseignante, ça reste le groupe sociologique qui fournit le plus d'écrivains. C'est que ce que je trouve un peu dur dans la discussion sur l'école, c'est que depuis une vingtaine d'années, je ne sais pas si ma datation est correcte, c'est très difficile de critiquer l'école sans être... d'une certaine façon, l'allié objectif de gens qui veulent détruire l'école dans des logiques parfois néolibérales, tu vois. Et sauf que, en fait, je trouve que c'est dommage parce qu'on a perdu toute la réflexion sur ce qu'on appelait l'éducation alternative, sur Freinet, sur tout ça. C'est-à-dire que quand tu parlais tout à l'heure des essoufflés, Et en fait, pour moi, les essoufflés, c'est des gens sur lesquels Freinet ou même les élèves de Jacotot ont pu écrire, c'est-à-dire des gens qui en fait, l'école pour eux, c'est un système carcéral. C'est quelque chose que tu dis dans ton texte. C'est-à-dire, ton personnage de Nounous, qui est d'une certaine façon un personnage quand même, même si ça a été toi, il ressent le système éducatif comme un système carcéral. Est-ce qu'actuellement, au sein du monde enseignant, il y a une discussion sur ce que cette petite tradition de l'enseignement alternatif, l'éducation alternative a pu apporter, voilà. Est-ce que c'est vivant? Voilà.
Alors, il y a quand même des choses qui ont été faites, puisque à
Parce que moi,
l'époque.
je précise bien que je suis enseignant, je vois ça du monde extérieur, et je sais qu'un truc qui peut être irritant pour les enseignants, c'est que tout le monde a son mot à dire sur l'enseignement, alors que, en fait, on est hors enseignement, quoi.
Oui, mais il y a des choses qui ont été faites par rapport à l'époque où j'étais Nunus, donc ce surnom qu'on me donnait quand j'étais collégien, enfin que mes amis proches me donnaient en écho à ma taille de Minus de l'époque. Voilà. Il y a des choses quand même qui ont été faites. Par exemple, tout ce qui est les AVS, tout ça, les AESH, donc ces personnes qui aident, qui sont dans les classes et qui travaillent avec les élèves qui peuvent avoir des problèmes de dyslexie ou autre. Ça, c'est quelque chose qui est très très important parce qu'à l'époque où moi j'étais collégien, ça n'existait pas. Le seul adulte présent dans la classe, c'était l'enseignant. Et ces problèmes de dyslexie ou autre, alors que moi je ne l'avais pas du tout, mais pouvaient conduire certains au décrochage scolaire et ensuite à des formes d'indiscipline graves. Donc ça, il y a eu des grandes avancées. Il y a eu des grandes avancées là-dessus. Il y a eu des avancées aussi très importantes sur la question du harcèlement qu'on évoquait tout à l'heure. Mais par contre, pour la discipline ordinaire, etc., bon, bah, c'est compliqué aussi d'agir vraiment là-dessus. Là, je ne sais pas si la réflexion a tellement avancé, mais disons que c'est un peu vu comme classique. Il y aura toujours des enfants un peu qui s'essoufflent, qui s'agitent, etc. Mais là, il n'y a pas forcément énormément d'avancées. Mais ça va quand même mieux. Je trouve que quand même l'école a fait du chemin par rapport aux années 90, quand même. J'aurais sans doute pas été le même. Si j'avais été l'élève, si j'avais été élève dans le collège où j'enseigne, j'aurais pas sans doute poser autant de problèmes, voilà. Il y a quand même des avancées qui ont pu être positives.
J'y pense parce que, en fait, ton texte, c'est un grand texte sur l'école. Et je cherchais quels étaient les grands textes sur l'école dans la littérature, donc pas nécessairement dans l'essai, parce que toi, ça reste un récit, donc une œuvre plutôt littéraire. Et le dernier texte qui m'avait marqué, c'était Entre les murs de Bégodeau, que beaucoup de gens connaissent plutôt par l'adaptation cinématographique, qui a eu la Palme d'Or, je crois, à
Oui,
Cannes.
c'est mon cas, je le connais par le film.
Et en fait, ce qui m'avait un peu frappé lors de la réception, c'est qu'il y avait une forme d'hostilité à ce film, alors plutôt à droite, qui prenait l'angle du communautarisme. Sauf que, en disant, voilà, Bégodeau, adepte du communautarisme, alors qu'en fait, moi, j'avais pas vu le film ou le roman, enfin, oui, c'est un roman, sous cet angle, mais parce que j'avais été assez marqué par ce que Bégodeau avait pu écrire dans différents articles sur Jacotot, qui présentait, je sais pas si tu vois ce que c'est, Jacotot, mais alors, c'est vraiment pas très connu. C'est connu parce qu'il y a eu un petit livre de Jacques Rancière, qui sortit il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait Le Maître Ignorant. Et Jacotot, c'était un bonapartiste qui s'est retrouvé chassé en Belgique quand il y a eu la Restauration, et qui a inventé une méthode pédagogique avec cette idée de le maître doit jouer l'ignorant, et ce qu'il exerce, c'est juste sa volonté, et son but, c'est de donner confiance au gamin. C'est-à-dire que le gamin sait faire, et donc il va y arriver. Et il y a toute une réflexion sur le fait que parfois notre enseignement va un peu organiser l'impuissance du gamin, c'est-à-dire le conduire à l'impuissance. Et quand on lit ton texte, on a l'impression que Nunus, en fait, l'école lui apporte rien. C'est-à-dire l'école lui permet de croiser des nouveaux gamins qui vont soit l'entraîner à faire des conneries, soit que lui va entraîner à faire des conneries. Mais on a l'impression que c'est un peu que ça, l'environnement, quoi.
C'est sûr que ouais, j'ai voulu montrer comment justement il y avait comment les cancres et les mauvais élèves finissent toujours par s'aimanter entre eux en fait. Ils s'attirent entre eux et ça c'est quelque chose que je retrouve énormément en tant qu'enseignant que je vois sous mes yeux. Et c'est vrai qu'en effet à cette époque-là je faisais partie de ceux pour qui voilà l'école n'était pas du tout l'enjeu principal parce que j'étais je pense dépassé par des enjeux psychologiques autres qui me rendaient complètement indisponible à l'enseignement scolaire. Mais je pense que c'est le cas d'énormément d'élèves difficiles qui ont des problèmes dans leur vie. Alors ça peut être des choses qui semblent complètement anodines aux adultes. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à appréhender pour les adultes, parce que un ado peut se faire complètement bouffer la tête par un truc qui semblerait totalement dérisoire pour un adulte. Bon, moi, ça pouvait être des choses comme les complexes physiques, les complexes. J'étais très complexé par mon physique, qui m'avait valu quelques moqueries que je raconte dans le livre. Ça, c'est les moments où j'ai pu être un peu victime de harcèlement scolaire. J'étais aussi grignoté mentalement par la violence de mon frère, par aussi l'idée de crier ma différence, de hurler ma différence. C'est quelque chose qui était très présent chez moi. Peut-être parce que j'avais eu une histoire familiale particulière, j'avais perdu ma mère quand j'avais 3 ans, bon, et j'étais toujours habité par l'idée que ça faisait de moi quelqu'un d'exceptionnel d'une certaine façon, bon, même si exceptionnel pas dans le bon sens, bon. Et donc j'étais, je pense, habité par une pulsion un peu folle de crier cette différence. Et je ne parvenais pas à crier cette différence, à dire cette différence autrement que par la transgression. Et la transgression devenait mon langage, en fait. La transgression devenait mon langage. Et c'est ça qui me rendait indisponible à l'enseignement, mais en même temps. Et mon livre, je l'espère, est aussi un hommage quelque part rendu au collège dans lequel j'ai été, qui a fini quand même par me faire entendre des choses. À me faire entendre des choses et à me remettre quand même dans une forme de droit chemin, quoi. Voilà. Et donc, je leur dois aussi quelque chose. Et il y a certains moments, même s'il y avait le côté très carcéral que je vivais douloureusement, il y avait aussi des moments de paix et c'est au collège que j'ai découvert ce que c'est que le style en littérature, par mon passant, des choses comme ça. Donc si quand même l'enseignement scolaire du collège a pu à certains moments m'apporter des choses qui me sont précieuses jusqu'à aujourd'hui. Il y a des anecdotes en cours d'histoire que je raconte quand je fais classe à mes élèves qui me viennent directement de profs d'histoire que j'ai eu au collège.
C'est-à-dire, il y a bien, c'est-à-dire que là, c'est intéressant parce que vraiment la réflexion qu'on peut avoir sur un environnement carcéral, c'est qu'une fois qu'on met quelqu'un en prison, on fait basculer quelque chose qui a été anecdotique, c'est-à-dire j'ai fait une bêtise, à quelque chose qui devient essentialiste, je suis un délinquant et je serai toujours un délinquant. C'est l'approche de Foucault de la prison, c'est-à-dire. Et en fait, ce qui est effectivement important, je trouve, et ce que tu montres dans ton récit, c'est comment on peut s'organiser pour que la connerie que fait le gamin, ça ne devient pas le truc qui le définisse et qui fait que ça sera son identité jusqu'à sa mort, en fait. Et donc, il y a bien des moments où le gamin arrive à s'échapper de ce destin tout tracé. Mais ce que. D'où ça vient? C'est qu'est-ce qui fait la bascule en fait? C'est-à-dire que comment Nunus s'en sort? Alors, je sais pas. Enfin, faudra lire le texte. Mais donc, retour à la Jungle dans toutes les bonnes librairies, voilà, d'Alexis David Marie. Mais c'est quoi? C'est l'action d'un prof à un moment. Les gens ont souvent ça quand ils repensent au monde scolaire. L'épiphanie, un truc, mais parfois je me dis c'est une reconstruction rétrospective en fait, c'est-à-dire il y a rarement un moment de bascule en fait.
Moi, il n'y a pas eu de moment de bascule précis. Et c'est marrant parce que longtemps, avant de travailler sur ce texte, je croyais qu'il y en avait un. Je croyais qu'il y en avait un parce que je me souvenais d'une punition que la CPE de l'époque, de mon collège, m'avait donnée, une punition que j'avais adorée. Elle m'avait dit, bah tiens, fais une rédaction, j'étais en troisième, fais une rédaction où tu expliques pourquoi tu as besoin de faire tant de bêtises. Et j'avais adoré ce sujet de punition, parce que je m'étais dit, ah ben voilà, je tiens là l'occasion de m'exprimer, de réfléchir. Et déjà à l'époque, même si j'étais dans des comportements souvent un petit peu délirants, un petit peu fous, dont je peux rougir aujourd'hui, bon, eh bien j'aimais déjà beaucoup l'introspection, l'analyse, etc., me prendre la tête, comme je disais. Et j'avais un ami avec qui, je le raconte dans le livre, on aimait justement réfléchir comme ça, se prendre la tête en quelque sorte, quand tous nos camarades disaient « faut pas se prendre la tête dans la vie », etc. Mmh. Et donc j'avais adoré cette punition, pouvoir essayer de comprendre, d'expliquer à l'écrit pourquoi j'avais besoin de faire tant de bêtises. Je me rappelle plus ce que j'avais écrit. Mais longtemps, j'ai pensé que cette punition avait été le point de bascule et qu'après j'avais arrêté les conneries et que j'avais plus de sanctions scolaires. Bon, il n'y a pas très longtemps, à la faveur d'un déménagement, ma mère retrouve tout mon dossier scolaire avec tous les notifications d'exclusion, les carnets de correspondance, enfin bref, ce que j'appelle dans mon livre le dossier Nunus. Bon. Et donc elle me donne le dossier Nunus. Et donc j'ai pu me replonger dans tout ça. Il y avait justement la lettre de menace de mort que j'avais écrite et que je n'avais pas lue depuis cette époque-là. Et en fait, en consultant tout ça, je me suis rendu compte que ce que j'avais reconstruit a posteriori sur ce point de bascule, en fait c'était faux, c'était une reconstruction. C'est-à-dire qu'après cette punition de la rédaction que j'avais dû écrire, pourquoi j'avais tant besoin de faire des bêtises, et bien en fait il y avait eu plein de sanctions, même une exclusion de quelques jours dont j'avais aucun souvenir. Mais quand même, je pense qu'il y a eu un progrès de la réflexion sur soi-même. Je pense que la punition que j'évoquais, pourquoi tu as besoin de faire tant de bêtises, Alexis, je pense que ça m'a quand même aidé à comprendre qu'à un moment, le coût devient trop élevé, quoi. Parce que j'entends souvent mes collègues, je le dis dans le livre, quand un élève est exclu, dire « Ah, il doit être bien content d'être chez lui, je suis sûr qu'il s'en fiche d'être exclu ». Et je sais que non, parce que quand j'étais exclu, ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois d'être exclu une semaine, j'étais très mal. Et même si parfois je partais faire du skate toute la journée, j'étais très mal parce que je me sentais marqué comme un paria scolaire. Et ce que je dis à un moment dans mon livre, c'est qu'en fait, un jeu de société, parce que l'école m'apparaissait à l'époque, donc comme une caserne à blaireaux, d'accord, mais aussi comme une sorte de jeu de société à la con, à laquelle on serait obligé de jouer, et que je ne voulais pas jouer à un jeu de société, dont je refusais les règles, je ne voulais pas jouer à ce jeu de société. Mais ce que je dis, c'est qu'en fait, un jeu de société auquel tout le monde joue n'est plus un jeu, et que les faux billets de Monopoly deviennent alors de vrais billets verts.
Je pensais à un truc que tu me racontais, alors je ne sais pas si nos auditeurs l'ont entendu, hein, c'est que dans ton texte, tu es très très lucide sur les questions sociales, de classe sociale en fait. Et ça, dans la conversation collective sur l'école, c'est quelque chose qui revient très régulièrement sur le fait que un des problèmes de l'école, c'est qu'elle n'arrive pas à être ce grand... je sais pas, melting pot, ce grand égaliseur de la différence, je sais pas si c'est ça vraiment sa mission ou c'est ça, comme ça qu'on peut le formuler. Et régulièrement, il y a des tentatives d'améliorer ça. Donc, par exemple, il y a l'uniforme. Voilà. Qu'est-ce que toi, tu en penses, Alexis? Parce que toi, tu es sur le terrain. Est-ce que tes collégiens, tes sixièmes vont débarquer avec un uniforme en septembre?
Quand les élèves me parlent de ça, je leur réponds qu'ils sont déjà en uniforme. Puisqu'ils sont en survêtement, en survêtement sombre ou noir ou gris pour la plupart d'entre eux, donc souvent ils sont déjà en uniforme. Ça me semble assez anecdotique pour de vrai. Et je sais absolument pas comment j'aurais vécu ça. Mais c'est vrai que lorsque la carte scolaire avait été mise en place, l'idée pour les collèges, et le collège où j'étais élève, c'était un peu ça l'idée aussi, hein, c'était de mélanger justement les élèves de différents quartiers pour permettre un brassage social. Et effectivement, dans le livre, la thématique du brassage social joue un rôle important, ouais, tout à fait.
Oui, en plus, alors un truc que je ne sais pas si c'est une, enfin, je pense que c'est une évolution très négative de la société, mais peut-être qu'on manquait de lucidité dans les années 90, sûrement. C'est que très souvent, maintenant, on n'attaque pas la chose par la différence de classe, mais carrément par la différence ethno-culturelle, c'est-à-dire une approche culturaliste, voilà, que moi je trouve très délétère. Alors, enfin, c'est peut-être à l'ancienne, mais c'est-à-dire, ça c'est quelque chose qui. Enfin, j'ai pas vraiment de questions, c'est simplement quelque chose que j'apprécie dans ton texte, c'est que tu. T'as une approche. Est-ce que tu es marxiste? Est-ce que tu as une approche vraiment par la lutte des classes, en fait? C'est-à-dire par le niveau économique de. Voilà, c'est ça. C'est aussi ça. C'est-à-dire que grosso modo, ce que tu suggères par moment, c'est que toi, à un moment, t'as comme des doubles qui sont tes camarades dans la culture de la déconne, mais qui sont pas dans la même classe sociale que toi.
C'est ça.
Et donc toi, l'institution, qui est quand même une institution un peu bourgeoise, va t'accompagner un peu plus pour te remettre dans le droit chemin, et les autres va les pousser un peu plus vers la sortie.
Alors, je ne sais pas du tout si je suis marxiste ou non, mais je suis sans doute marqué tout simplement par mes études d'histoire. Et quand j'étais étudiant en histoire, bah, j'étais quand même beaucoup dans une historiographie qui avait été très marquée une histoire marxiste, etc. Et en tout cas, où la question sociale est toujours très, 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 très présente. Comment les conditions matérielles des uns et des autres bah, vont expliquer beaucoup de choses sur leurs valeurs, leur vision du monde et tout ça, quoi. Comment finalement les valeurs sont des symptômes finalement. Bon. Et c'est vrai que la question sociale apparaît dans mon livre, où là j'apparais non pas comme quelqu'un qui vient d'une classe défavorisée et qui s'élève, mais qui vient justement d'une famille socialement favorisée, mais qui est amenée par cette contre-culture de la déconne, c'est-à-dire cette contre-culture de la transgression, où je suis amené à côtoyer ces élèves-là avec qui on partage bah, la difficulté scolaire, les sanctions qui s'accumulent, les mauvaises notes, etc., quoi.
Ouais, non, mais c'est un truc auquel je pense beaucoup, parce que tu sauras que quelque chose qui commence à irriter tout le monde dans. Non, j'exagère. Qui commence à irriter certains éditeurs, certaines éditrices, c'est tous ces récits de transclasse. Et voir, on va avoir beaucoup de personnes qui nous expliquent qu'ils viennent du lumpenprolétariat qui s'élève dans la bourgeoisie. Ils ont tendance un peu à exagérer leur lumpenprolétariat, par une sorte d'absence de lucidité, que découvrir que ça s'appelle la petite bourgeoisie, ce qu'ils pensaient être le lumpenprolétariat. C'est quelque chose, alors, c'est juste un commentaire en passant, mais c'est quelque chose qui manque dans l'édition actuellement, c'est des récits de transclasse dans l'autre sens. C'est-à-dire des gens qui viennent de la bourgeoisie, qui finissent dans le lumpenprolétariat. Alors toi, justement, c'est marrant parce que d'une certaine façon, en creux dans ton texte, on sent que quand un enfant de la bourgeoisie va déchoir, il y a plein de filets de sécurité pour aller le rattraper par le col quand même. Mais les filets de sécurité, c'est par exemple quand il y a un conseil de discipline, les parents sont là.
Oui, alors les parents sont toujours là quand même,
Ouais.
mais ils vont pas forcément toujours
Non, mais ils n'ont pas
savoir
le
quoi
même
dire.
impact, le même effet sur les enseignants.
Oui,
C'est-à-dire,
pour
est-ce
des
qu'ils
questions de
sont à
langage, pour des
égalité?
questions de
Est-ce qu'ils les
langage.
dominent? Est-ce qu'ils sont dominés par eux? Quel est le rapport avec une institution?
Bien sûr, bien sûr. Pour des questions de langage, par exemple. Je raconte le conseil de discipline que j'ai eu quand j'étais élève. Et c'est vrai que, voilà, mon père m'avait, qui était médecin et tout ça, donc médecin psychiatre, qui savait s'exprimer, manier les mots, etc. Et donc, oui, il avait su trouver les mots pour s'adresser à l'institution. Et là, je reparle en tant que professeur. Quand je vois les conseils de discipline, c'est vrai que parfois, souvent, les parents n'ont pas les mots. Mais c'est pas du tout au sens où ils seraient dominés par l'institution. Mais c'est plutôt parce que ils vont avoir une posture rétive ou de défi face à l'institution qu'il faut surtout pas avoir à ce moment-là. Voilà,
Oui, mais
c'est
c'est ça,
plutôt.
j'y pense aussi. Alors, je vais faire une comparaison qui est un peu osée, mais depuis tout à l'heure,
Ils n'ont pas les codes.
une mention de carcérale. Oui, mais c'est que moi, j'ai des amis qui sont avocats pénalistes, et ils me disent, ce qui est terrible, c'est que, y a des clients qui sont incontrôlables, où on leur dit, là, tu as passé devant le juge, c'est pas le moment de faire le mariole, c'est le moment où tu t'écrases. Tu dis que tu es désolé, et en fait, au dernier, ils se mettent d'accord, mais au moment où ils sont dans la salle, le
C'est ça.
client, le prévenu, se rebelle
C'est
et
ça.
va faire le mariole au plus mauvais moment de sa
Ouais,
vie.
mais ça, c'est
C'est
parce qu'il n'y a
de.
pas les codes.
Ouais.
C'est une défaillance de code, en fait.
Mais c'est. Là, on donne vraiment une image de l'école comme un système carcéral. Alors, parle-nous, c'est quoi,
Ah
toi, tes
oui.
joies d'enseignant?
Ah non, mais pas du tout. Mais moi, justement, j'ai trouvé, quand j'étais là, et malgré toutes les difficultés, j'ai parlé à un moment des moments aussi de paix et d'élévation que j'ai pu ressentir en tant qu'élève. Lorsque les professeurs, justement, étaient suffisamment autoritaires pour bien me mater. Alors, c'est sûr que moi, il fallait me mater, quoi, en gros. Mais que du coup, je devenais réceptif au discours. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est là que j'ai découvert le style en littérature. Je me souviens aussi de moments où j'allais me réfugier au CDI pour lire des Mafalda. Et ça, les BD Mafalda, ça a été un grand moment de mon adolescence et de mon passage au collège. Donc voilà, le collège aussi offre des moments de paix et d'élévation. Après, moi, mes grands moments en tant que professeur, c'est vrai que c'est beaucoup. Comme j'en parle d'ailleurs, puisque dans le livre, je parle aussi un peu de moi comme professeur, mais c'est les moments de camaraderie finalement avec les élèves. Alors ça peut sembler curieux de parler de camaraderie avec les élèves, mais bon, c'est une camaraderie verticale qui ne s'oppose absolument pas à l'autorité, mais simplement l'idée de plaisanter sur des petits riens, sur des blagues qui sont vraiment irracontables ensuite. Parce que il faudrait reposer tout un contexte en fait. Bon, mais ça c'est un des grands moments quoi, de
Non,
rire sur des petites choses. C'est presque ce que je
mais c'est
préfère.
un
Et aussi
moment de
les
ré...
émouvoir. Et aussi
Oui, mais
les
c'est un
émouvoir sur
moment
des choses.
de respect parce qu'en fait, ils sont traités comme des sujets et pas comme du bétail aussi. C'est quelque chose d'important. On sort du carcéral ou pour créer quelque chose d'humain ou peut-être ils ont à ce moment-là l'intuition qu'ils vont être des futurs sujets, quoi. Alors après, ça se fabrique pas, mais ça se prépare, ce type de moment. C'est-à-dire, toi, qu'est-ce qui fait que
C'est la
que ça apparaît enfant?
taquinerie, c'est taquiner, se faire aussi. Il y a beaucoup de théâtre, hein, dans l'enseignement. Donc voilà, moi, mon personnage là, en tant que professeur, c'est je me fais passer, mais ça les fait rire, pour quelqu'un de très cruel, un professeur très cruel, où je demandais
Je
par exemple
t'imagine pas
à une de
cruel
mes sixièmes de m'appeler votre cruauté, de
en
s'adresser à moi en disant votre cruauté. Donc certains élèves jouaient le jeu, oh votre cruauté, etc. Donc on rigole sur des petites choses comme ça. Mais c'est savoir rebondir en fait sur des petits riens, sur aussi des petites particularités d'un tel ou un tel, qui peuvent faire rire, mais de façon chaleureuse et d'une façon qui va en fait unifier le groupe et faire circuler entre nous de la complicité et une forme d'affection. Et ça, quand on arrive à créer ça, c'est sûr qu'après, l'enseignement se trouve considérablement facilité, quoi. Bon, même si parfois, de l'extérieur, ça pourrait sembler un petit peu cruel, hein. L'autre fois, je me souviens d'un élève. Le pauvre, il vient d'être exclu définitivement du collège B. Il s'était pris dans une grosse bagarre. Et j'avais dû, alors que je suis tout frêle moi-même, j'avais dû me mettre au sol dans le hall pour le dégager au sol, dégager moi-même la bagarre, quoi, la baston. Bon, et donc après, je le charriais en fait. Je le charriais là-dessus en lui disant, oui, mon fils de 7 ans fait du karaté, il faudrait qu'il montre quelques mouvements pour que tu apprennes mieux à te battre, etc. Et donc Ça le faisait beaucoup rire parce qu'il comprenait très bien l'idée qu'il y avait derrière. Donc là, c'est vrai que je replongeais un petit peu dans cette ambiance de masculinité toxique qui avait été celle de mon adolescence et que je peux facilement réactiver. Et donc, ça faisait une sorte de connivence entre nous parce qu'il était absolument pas dupe. Il comprenait très bien la blague qui le faisait sourire, quoi. Donc, c'est des petites taquineries comme ça. Les grands moments aujourd'hui de mes moments de prof, c'est des moments où on rigole comme ça ensemble, on se taquine les uns les autres. Et aussi les moments, alors là c'est tout à fait autre chose, c'est plus sérieux, quand j'arrive par le récit de quelque chose, d'un fait historique ou quoi, à les émouvoir en fait. Et d'ailleurs ça me crée un effet très particulier, qui est que quand justement je raconte quelque chose d'historique ou quoi, qui me semble émouvant, j'y mets du feu, j'y mets un peu des tripes, et je sens la classe émue de ce que je raconte, quand j'y arrive pas toujours, bon, et quand j'y arrive, et du coup ça me crée un effet miroir, où du coup l'émotion me revient à plein, et où moi-même je suis à limite à contenir presque mes larmes, où ça me fait presque des montées de larmes. Alors ça ne me ferait pas du tout sangloter, mais où ça me crée presque des montées de larmes et où les élèves me sentent émus. Et une fois, une classe s'en était rendue compte, puisqu'une élève m'avait dit « Ah monsieur, l'autre fois vous avez un peu pleuré en classe » et tout ça. Et je lui avais répondu « Mais non, tu avais mal vu. »
Sa cruauté ne pleure pas.
Voilà, exactement. Un proviseur aussi cruel que moi ne pleure jamais. Voilà.
Ah non, mais c'est... Mais c'est quelque chose qu'on sent dans ton texte, en fait, on sent, c'est aussi effectivement un creux, un portrait pas du tout didactique, mais un portrait de l'enseignant, c'est-à-dire de quelque chose qui, l'enseignement qui commence par le respect, la compassion pour les élèves, pour leur situation, la considération que le monde dans lequel on... Le monde scolaire est un monde qui est fait de contraintes qui peuvent être étouffantes pour certains d'entre eux, mais qui est aussi fait de moments qui sont des moments heureux et définitionnels aussi pour eux. Et ça me fait penser... C'est vrai que tu viens de reparler du fait que tu étais historien de formation et que tu enseignes l'histoire. Et on va... Enfin, ce que... Je trouve ton œuvre très cohérente. Tu parles de tes trois textes publiés aux Forges de Vulcain. Pourtant, j'ai toujours du mal, pour l'instant, à définir l'écrivain Alexis David Marie. Ton premier roman, c'était un grand roman picaresque sur l'effondrement de la foi, à la fois individuel et comme fait social. Ton deuxième roman, c'était un roman sur la montée de l'ultra-droite et surtout son fonctionnement intellectuel. Et surtout la difficulté de, entre guillemets, la gauche de bonne volonté de lutter intellectuellement contre son art. Ton troisième texte, qui est un récit cette fois-ci, c'est un récit sur la masculinité toxique dans les années 90, sur l'école comme un lieu quasi carcéral, qui peut... Et comment tu... Quelle est ta démarche ? Oui, pour moi, c'est la clé, c'est l'historien. Mais j'ai du mal, c'est pas juste l'historien, c'est, il faut le qualifier plus.
La cohérence entre les trois, ça serait d'interroger des fonctionnements intellectuels. Interroger un fonctionnement intellectuel, interroger une pensée qui peut nous sembler au départ très très différente. Voilà, ça serait vraiment ça. Et c'est ce qui m'avait conduit dans le premier roman à réfléchir sur ce que pouvait être l'incroyance et l'incrédulité au XVIIe siècle, avec les armes intellectuelles que les gens pouvaient avoir à l'époque. C'est ce qui m'a conduit ensuite à comprendre justement, comme tu dis, la montée de l'ultra-droite, faire comprendre un petit peu le raisonnement, le mode de pensée. Donc interroger des modes de pensée, et essayer de rentrer dans des pensées étrangères. Et là, c'est un petit peu ça avec Nunus et la Gingra, puisque même si c'est un récit, c'est l'idée d'interroger le fonctionnement intellectuel, la façon de penser d'un cancre des années 1990, quoi.
Oui, très régulièrement, tu me rappelles que je suis plus âgé que toi et que ça parle des années 90 et pas des années 80. Alexis David Marie, je te remercie beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Ton texte s'appelle Retour à l'âge ingrat et tes précédents romans sont toujours disponibles en librairie, Prométhée vagabond et Martyr français. Merci.
Au revoir.